Le système FLOSS, scandale en Polynésie française. À première vue, lorsqu'on évoque ce bout de France aux antipodes de la métropole, on pense à un décor de carte postale. Lagon bleu turquoise, montagneuse, palmiers majestueux, fleurs colorées. On imagine la quiétude sous le soleil, les vacances et la douceur de vivre. Mais c'est une image d'Épinal, car derrière ce paradis situé au beau milieu de l'océan Pacifique se cache une autre réalité. Pendant 30 ans, un homme a régné en maître absolu sur cette partie du territoire français. Cet homme, c'est Gaston Flosse, successivement gouverneur, puis président de l'archipel polynésien, celui qu'on a fini par appeler Gaston Ier ou Gaston le Grand, n'a pas volé ses surnoms. Soupçonné de clientélisme, de corruption, de propagande, le grand ami de Jacques Chirac a marqué la Polynésie française de son empreinte et bénéficié durant de longues années d'une incroyable impunité judiciaire. Détournement de fonds publics, usage de faux, trafic d'influence. Gaston Flosse est tout simplement l'élu le plus poursuivi de l'histoire de la Ve République. Raconter l'histoire de ce pouvoir et les rouages de ce système, c'est se plonger au cœur de l'outre-mer français, dans le tréfonds de cette histoire d'amour-haine qui structure les relations entre la métropole et les terres lointaines de la République. Une histoire qui soulève aussi, en toile de fond, les eaux du temps de la présidence Chirac, beaucoup moins claires que celles du lagon. Pour revenir sur ces questions, nous recevrons en seconde partie l'émission Renaud Lecadre, journaliste au quotidien Libération, partenaire d'Affaires Sensibles. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Le vieux lion revient dans l'arène. Gaston Flosse est largement arrivé en tête des élections territoriales de Polynésie. Celui qui a régné pendant plus de 20 ans sur ce territoire du Pacifique est de retour après 9 ans d'absence. Il devance son rival Oscar Temaru, chantre de l'indépendance. Gaston Flosse, lui, a mené sa campagne sur la crise économique et sociale qui touche de plein fouet la Polynésie.
Ce 5 mai 2013, à l'image des journalistes qui ont du mal à cacher leur surprise, les Français se pincent pour être sûrs de ne pas rêver. C'est pourtant vrai, Gaston Flosse est bien élu président de la Polynésie française. Après avoir occupé ce poste de 1991 à 2004, puis de nouveau quelques mois en 2008, il parvient, à 82 ans, à remporter les élections territoriales de 2013. Déjà, quand il s'était lancé dans la campagne, les observateurs attentionnés de la vie politique polynésienne n'en revenaient pas. Car en janvier de la même année, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete à 5 ans de prison ferme dans une sombre affaire de détournement de marché public. Un mois plus tard, il était condamné par la cour d'appel à 4 ans de prison et 3 ans d'inéligibilité pour une affaire d'emploi fictif cette fois. Dans le premier cas, il a fait appel, dans le second, il s'est pourvu en cassation. Car rien n'arrête Gaston Flosse. Surtout pas de voir son sort suspendu à des décisions judiciaires. Il le sait, le meilleur moyen de lutter contre ces menaces, c'est de récupérer le pouvoir. Il faut le voir, haranguer les dizaines de milliers de militants venus le soutenir à ses meetings. Tous parés d'orange, la couleur de son parti, le Taoera, Ahuira, Atira, le rassemblement du peuple. Il faut le voir présenter son programme de réforme prévu jusqu'en 2025, date à laquelle il aura 94 ans. Alors, comment expliquer ce succès alors qu'il est en plein démêlé judiciaire ? Situé à 18 000 km de la métropole, les 270 000 habitants de la Polynésie française vivent sur un ensemble de 5 archipels composés d'une centaine d'îles au milieu de l'océan Pacifique. La capitale administrative, Papeete, se trouve sur la plus connue, Tahiti. Un ensemble difficile à administrer vu la distance entre les différentes îles. Territoire d'outre-mer, depuis 1946, la Polynésie française est pour la France, troisième puissance maritime du monde, un point hautement stratégique. Elle couvre une zone maritime de 5 millions de kilomètres carrés, interface géographique entre les Amériques et l'Est asiatique. C'est aussi la porte d'entrée de l'Antarctique et de ses immenses réserves naturelles. La distance et l'éloignement rendent difficile aussi le contrôle du territoire depuis Paris. La vie politique locale ne s'y organise pas autour de l'affrontement idéologique classique droite-gauche, mais sur un clivage entre autonomistes et indépendantistes. Une ligne qui, au gré des alliances opportunes, tient plus parfois de la posture, donc de l'imposture, par définition. La politique polynésienne à laquelle participent massivement ses citoyens révèle en fait l'importance de l'échelle locale propre à chaque île où tout tourne autour des personnalités qui se présentent. À ce jeu, Gaston Flosse a longtemps été le meilleur. Alors, comment a-t-il réussi à mettre la main sur ce territoire et à conserver aussi longtemps le pouvoir ?
Qui êtes-vous, Gaston Flosse ?
Comme vous le savez, je suis un enfant des îles, né à Arequitea, dans l'île de Mangareva, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. Je suis venu là et j'étais à l'école chez les bons frères de Ploermel, où j'étais en pension pendant 9 ans. Et c'est peut-être là où j'ai appris à ce qu'est le travail, la discipline, le service des autres. Je suis entré dans la vie publique en 1957.
Alors je vous arrête tout de suite, Président Flosse. C'est un portrait idyllique que vous nous tracez là. Alors, on vous accuse d'être un dictateur. Moi, je l'ai lu plusieurs fois ces jours-ci, ou même d'avoir quelques conceptions à caractère africain, ce qui ne, sans vouloir insulter les Africains, je dirais. Alors, qu'en est-il exactement ? Quelle est votre ambition, Gaston Flosse ?
Monsieur Grimaud, est-ce que je ressemble à un Bokassa, à un Mindada ou un Kadhafi ? Gouverner, ce n'est pas seulement prévoir, c'est également prendre des décisions. Et ce n'est pas toujours facile de prendre ces décisions. Napoléon disait que lorsque je récompense l'un de mes vaillants soldats, je fais un ingrat et plusieurs mécontents.
Gaston Flosse, c'est d'abord un style. L'homme au visage rond, le teint hâlé, toujours en forme et connu pour ne dormir que quelques heures par nuit, se lever à l'aube pour faire du sport et surtout être toujours sur le terrain et toujours dans l'action. Né le 24 juin 1931 d'un père lorrain et d'une mère polynésienne, il est ce qu'on appelle ici un demi, car on ne dit pas métis, sur ces terres lointaines. Cette double origine lui permet de manier aussi bien le français que le polynésien et de jongler aisément entre les mentalités européennes et polynésiennes. Charismatique, doué pour les discours, Gaston Flosse a tout du parfait animal politique. Dès 1965, à 34 ans, il devient maire de Pirae, sur l'île de Tahiti. Son parcours épouse celui de la droite métropolitaine. Au début des années 70, il prend la tête du parti gaulliste tahitien qu'il remplace rapidement par le Taoera Uiratira, copie du RPR hexagonal. Il est à bonne école, puisqu'il participe activement derrière Jacques Chirac à la création du RPR en 1976. Gaston Flosse et Jacques Chirac nouent ainsi une amitié indéfectible. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre l'un ou l'autre déclarer qu'ils sont frères. Gaston Flosse poursuit son ascension politique. Il est élu député en 1978, puis député européen un an après. À Strasbourg, il négocie avec l'accord du président Mitterrand un statut d'autonomie interne pour la Polynésie. Formidable stratégie politique. Car ce nouveau statut qui maintient l'archipel sous les lois de la République mais lui accorde une très large autonomie permet à Gaston Flosse de couper l'herbe sous le pied de ses opposants indépendantistes. Il devient en 1984 le premier président du gouvernement de la Polynésie française. Réélu sans surprise en 1986, il expose les grandes lignes de sa fonction.
Je suis intimement convaincu que plus de clarté, de désintéressement personnel dans la politique apporteront, à n'en pas douter, une nouvelle confiance et que spécialement les plus démunis et les plus jeunes retrouveront l'espoir. À bien y réfléchir, je n'ai pas la certitude que le poste de président du gouvernement soit aussi enviable qu'on l'imagine en général. En le sollicitant, alors que je l'ai déjà exercé, je ne suis animé par aucune ambition personnelle. Alors, me direz-vous, pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui ? Je suis devant vous aujourd'hui parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir de Polynésien et d'homme public de poursuivre le combat.
L'année 1986 est plutôt bonne pour Gaston Flosse. Il est aussi nommé secrétaire d'État en charge des problèmes du Pacifique Sud. L'ami Jacques Chirac, devenu Premier ministre, ne l'a pas oublié au moment de composer son gouvernement de cohabitation. À gauche comme à droite, au début des années 80, la situation Flosse fait figure de rempart solide face aux volontés indépendantistes. On craint notamment une contagion de la crise calédonienne. Et la France a absolument besoin de la Polynésie pour une raison bien précise, la bombe nucléaire. Oui, depuis l'indépendance de l'Algérie en 62, l'État a trouvé son terrain de jeu pour ses essais. Ainsi, dès cette année-là, un centre d'expérimentation du Pacifique est installé sur l'archipel. L'économie locale est bouleversée par l'arrivée d'une importante aide financière. Avec le temps, la contestation locale s'intensifie. Au milieu des années 80, Gaston Flosse a les plus grandes difficultés à contenir l'opposition. Ses adversaires politiques en profitent et commencent à dénoncer sa gestion du pouvoir. En 1986, deux conseillers territoriaux déposent une plainte contre lui pour financement occulte de campagne électorale. Une partie de la presse locale, pourtant contrôlée de près par Flosse, attaque aussi le président. Sous l'impulsion d'un jeune journaliste, Jean-Pascal Courault, surnommé JPK, rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti, de nombreux articles sur de supposés détournements de fonds publics par Gaston Flosse sont publiés. En 1987, confronté à une grave crise politique et sociale, le président doit quitter son poste. À l'heure du bilan, JPK continue ses enquêtes et publie, le 27 avril 88, un dossier intitulé « Le règne calamiteux de Gaston Flosse ». Repris par les principaux quotidiens métropolitains, cette publication fait grand bruit. La meilleure défense étant l'attaque, Gaston Flosse décide d'intervenir en direct de RFO pour faire taire les rumeurs.
Il s'agit d'une campagne de calomnie, d'injures contre moi-même, et c'est une campagne qui dure depuis 2 ans ou plus. Et je dis que il se passe des choses très graves dans notre pays, car cette campagne est manipulée et conduite par des hommes sans scrupules qui font passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt général. Et ils vont même plus loin, utilisent cette presse pour semer la haine et la division dans leur pays, car pour eux, lorsque j'étais à la tête du gouvernement, je les ai dérangés.
Et son adversaire, JPK, lui répond dans la foulée.
Pourquoi Gaston Flosse a si peur de ce numéro spécial ? Eh bien, je pense tout simplement parce que tout ce qui est écrit dans ce numéro spécial est vrai. Je voudrais remercier M. Gaston Flosse pour la formidable publicité qu'il a faite pour ce numéro spécial. Ceci dit, je suis très inquiet de voir les institutions de la République se liguer dans cette affaire pour tenter de bâillonner la presse quand elle dérange.
Quand on le fait sortir par la porte, Gaston Flosse n'a pas son pareil pour revenir par la fenêtre. Après une traversée du désert de 4 ans, il est réélu à la présidence de la Polynésie française le 5 avril 1991. Malgré les soupçons qui planent autour du mandat précédent, il peut compter sur son parti et ses nombreux soutiens. Avec ce retour à la présidence, Gaston Flosse accentue son empreinte sur le territoire. Et il sait qu'il peut compter sur Jacques Chirac, qui accède à l'Élysée en 1995. Les deux hommes scellent un pacte. À peine arrivé au pouvoir, le nouveau président de la République décide la reprise des essais nucléaires en Polynésie, arrêtés depuis 3 ans par François Mitterrand. Face à la colère de la population locale, il confie à Gaston Flosse la mission de maintenir tant bien que mal le calme dans l'archipel. Mission remplie par le président polynésien. Pensez donc, que ne ferait-on pas pour Jacques Chirac? En janvier 1996, ce dernier met un terme définitif aux essais. Le centre d'expérimentation nucléaire et l'argent alloué plient bagage. En compensation, Jacques Chirac et Gaston Flosse signent une convention qui assure un versement annuel de 150 millions d'euros à la Polynésie française. La fameuse dette nucléaire ou rente Chirac, comme l'appellent certains Polynésiens. Grâce à cette manne financière, Gaston Flosse poursuit le développement de l'archipel. Et le président se fait grand bâtisseur. Couverture sociale, infrastructures publiques, désenclavement, les îles de Polynésie se développent au rythme des réformes. Pour maintenir l'ordre dans l'archipel, il crée le GIP, le groupe d'intervention de la Polynésie. Initialement dédié aux crises en cas de cyclone, l'unité se transforme en une sorte de garde prétorienne du président. Gaston Flosse assoit sa popularité et une réputation, celle de l'homme fort de la Polynésie moderne. Et au passage, il ne s'oublie pas. En 2000, on inaugure en grande pompe un incroyable palais présidentiel au style colonial. Le prix, 38,5 millions d'euros. Chaque Polynésien devient peu ou prou le client de l'Empire Flosse. Salaire, promotion, emploi, aide judiciaire ou sociale. Pendant plus de 10 ans, Gaston Flosse tisse sa toile. Il se sait protégé au plus haut niveau. Et en juillet 2003, pour sceller leur amitié, Jacques Chirac organise une visite officielle en Polynésie.
La Polynésie est aux avant-postes de la France. Elle est ouverte sur l'ensemble de la région. elle porte ici le message de paix, de solidarité et de dialogue qui est et sera le message de la France.
Je mesure le chemin parcouru et celui que nous pourrons effectuer encore ensemble dans les prochaines années, la main dans la main, le cœur dans le cœur.
Sur ce morceau de République transformée en royaume de 1991 à 2004, le système FLOSS se met en place. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, l'un des principaux opposants à Gaston FLOSS, le journaliste JPK, qui dénonce le système depuis 10 ans, disparaît mystérieusement. Sa famille et ses amis pensent à un suicide. Une hypothèse qui, avec le temps, ne les convainc plus. En effet, le journaliste travaillait depuis plusieurs années sur une note sensible qui rassemblait les différentes affaires auxquelles serait mêlé le président polynésien. Les regards se tournent alors vers Gaston FLOSS, un Gaston FLOSS dont l'empire va vaciller au cours de l'année 2004.
Pour Gaston FLOSS, qui est à la tête de la Polynésie française depuis deux décennies, le sénateur UMP a perdu la majorité à l'Assemblée territoriale. Les Tahitiens qui élisaient ce dimanche leurs 57 conseillers territoriaux ont voté pour le changement. Le parti de l'indépendantiste Oscar Temaru est au coude à coude avec celui de Gaston FLOSS.
Il y a aussi des paroles lourdes de sens. La France va fermer le robinet. Selon les propres paroles de notre ministre des Tom, de quelle démocratie parlons-nous ?
La Polynésie française au cœur d'une passe d'armes à l'Assemblée nationale cet après-midi. Comme vous le savez, le gouvernement de l'indépendantiste Oscar Temaru a été renversé par une motion de censure.
Remontés comme des avions, les socialistes, musclés par la manifestation dans les rues de Papeete le week-end dernier, à laquelle participait une délégation du PS.
La politique maintenant avec d'abord une confirmation, l'élection d'Oscar Temaru, l'indépendantiste à la tête de la Polynésie française. Du coup, Gaston FLOSS se retire, un événement après 20 ans de pouvoir. Le départ de FLOSS, c'est la fin d'une époque pour la Polynésie, mais c'est aussi la fin d'un système.
Au cours de l'année 2004, la Polynésie française est le théâtre d'une surprenante crise politique. Il se trouve qu'en février, un nouveau statut d'autonomie est adopté. Consacré pays d'outre-mer, la Polynésie est toujours contrôlée par un haut magistrat nommé par l'État. Mais cette réforme élargit considérablement les responsabilités dévolues au gouvernement local et donc à Gaston Flosse. Dans la foulée, on organise des élections dont il est le grand favori. Mais à la surprise générale, au soir du 24 mai 2004, c'est son adversaire historique, l'indépendantiste Oscar Temaru, soutenu par le Parti Socialiste Métropolitain et à la tête d'une alliance de toutes les autres forces politiques, qui remporte les élections d'une voix. Après 13 ans de règne, Gaston Flosse doit céder sa place. Un séisme politique du côté de Tahiti. Mais, sauf que Gaston Flosse, lui, ne le voit pas de cet œil. Vu qu'il ne lui manque qu'une voix, eh bien il suffit de convaincre l'un de ses collègues députés pour que la majorité change de camp. En octobre 2004, il dépose une motion de censure contre le président Oscar Temaru. La motion est adoptée à la majorité d'une voix, tiens donc. Celle, en l'occurrence, de Noah Tetouani, ancien député du camp Flosse, qui avait rejoint Temaru au moment des élections. La manœuvre pour récupérer le pouvoir fait l'effet d'une bombe. En métropole, des voix s'élèvent pour dénoncer la forfaiture. Le Parti Socialiste, notamment par l'intermédiaire de son premier secrétaire de l'époque, François Hollande, monte au créneau.
Ce qui se passe en Polynésie est très grave, pas simplement pour le territoire polynésien, mais pour la République française. En effet, il y a eu une manœuvre qui a consisté à mettre le pouvoir légitime élu de la Polynésie en situation d'être renversé. Le gouvernement français y a pris directement sa part. Et aujourd'hui, il y a une crise profonde qui touche le territoire polynésien. Si bien que je demande solennellement au président de la République aujourd'hui de convoquer le corps électoral polynésien pour que les électeurs puissent dire quel gouvernement ils veulent. Et il y en a assez sur ces territoires, et celui-là en particulier, d'une politique de protection, d'une politique de clientèle, d'une politique qui rappelle les pires heures coloniales.
En octobre 2004, une immense manifestation réunit plus de 20 000 Polynésiens à Papeete pour protester contre le coup de force de Flosse et demander de nouvelles élections. C'est le plus grand rassemblement politique sur l'archipel depuis des décennies. Il faut dire que les quelques mois d'alternance au pouvoir ont eu des effets. En 5 mois, précisément, Oscar Temaru et son gouvernement ont positivement ouvert la boîte de Pandore. Alors un vent de liberté s'est levé sur la Polynésie française et on découvre la folie des grandeurs de l'ancien président. L'avion présidentiel à 17 millions d'euros, le navire amiral avec jacuzzi, les résidences secondaires sur les atolls de Tupai et Fakarava. On comprend pourquoi Gaston Flosse était classé 6e homme politique le plus riche de France. En octobre 2004, le journal Libération se procure un document qui révélerait qu'une cinquantaine de personnes touchaient des salaires en échange d'aucun travail. Des mensualités de plusieurs milliers d'euros attribuées à des élus, des responsables syndicaux, des hommes d'église, des sportifs ou encore des miss polynésiennes. Et on y voit quelques similitudes avec l'affaire des emplois fictifs parisiens sous Jacques Chirac, l'ami. Au cours des 5 mois de présidence Temaru, de nombreuses plaintes sont déposées en justice. Et l'étau se resserre autour de Gaston Flosse. La parole, elle aussi, se libère. Oscar Temaru essaie notamment d'en savoir plus sur les activités du GIP, la garde rapprochée de Gaston Flosse. Un homme en particulier passe à table. Il s'appelle Vétéa Guillou et il était membre du GIP. Il décrit les prérogatives d'une cellule spéciale à SED, une équipe de renseignement qui espionnait les journalistes ou opposants politiques. À son témoignage, Vétéa Guillou ajoute une confession. Il révèle que le journaliste JPK, disparu mystérieusement 7 ans plus tôt, ne s'est pas suicidé, mais aurait été tué par des membres du GIP. Vétéa Guillou aurait assisté à l'enlèvement du journaliste et entendu 2 membres du commando raconter comment il est mort. Un témoignage que toute la presse reprend.
On l'a attaché les mains et les pieds avec 4 papins. On l'a plongé. Au bout de 3 remontées, il s'est lâché et tout. Mais j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, ah, c'est juste pour rire. C'est juste pour le faire peur, pour avoir le dossier de Flosse, quoi.
L'affaire JPK ressurgit en pleine crise politique. Le témoignage de Vétéa Guillou secoue l'archipel. Quelques jours après ces révélations, l'ancien GIP est interrogé par la police. une audition pendant laquelle il se rétracte. L'un des membres du GIP dénoncé porte plainte et Pété à Guillou est jugé puis condamné dans la foulée pour faux témoignage. Dans certains cas, la justice polynésienne sait être rapide. Malgré ce revirement, la famille de JPK dépose une plainte contre X pour assassinat. Pour sa part, Gaston Flos essaie tant bien que mal de ramener le calme sur l'île et de se maintenir au pouvoir après le renversement du gouvernement d'Oscar Temaru. Sans succès. Face à la pression en métropole et aux révélations qui s'accumulent, il fait machine arrière et le 3 mars 2005, il reconnaît la victoire de la coalition menée par son adversaire. Et ce dernier récupère la présidence. Après de longs mois d'affrontements politiques et juridiques et 13 années à la tête du pouvoir, l'ère Flos s'achève enfin et la justice, elle, avance. Ainsi, le 3 avril 2006, la nouvelle tombe.
Détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, c'est ce qu'on reproche à Gaston Flos dans le rachat d'un atoll de 217 hectares situé dans l'archipel des Tuamotu. Il appartenait à Robert Wan, un riche entrepreneur qui avait fait fortune dans la perle. Estimé à 1,3 million d'euros, l'atoll a finalement été vendu au territoire de la Polynésie pour plus de 7 millions. Cette mise en examen est un nouveau coup dur pour Gaston Flos, par ailleurs toujours sénateur UMP. Les attaques pleuvent en ce moment. Un rapport publié cette semaine par la Chambre des comptes polynésienne accable le système Flos, au pouvoir jusqu'en 2005. L'ancien président avait par exemple à sa disposition un cabinet de 626 personnes, dont 22 conseillers pour sa seule communication personnelle. Une éditorialiste de la Dépêche de Tahiti aurait par ailleurs touché de l'argent pendant 13 ans contre quelques articles cléments. Oscar Temaru, le nouvel homme fort de Papeete, a donc du pain sur la planche pour rectifier les dérives de son prédécesseur dans ce gigantesque bout de France au beau milieu du Pacifique.
À partir de l'année 2006, les choses se gâtent sérieusement pour Gaston Flos. Les procédures judiciaires s'accumulent et surtout, elles ne sont pas prêtes de s'arranger. Car en mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle et s'installe à l'Élysée. Or, l'inimitié entre Gaston Flos et le nouveau président de la République est connue. Son frère Jacques Chirac parti, Gaston Flos se retrouve sans garde-fou. Et une nouvelle ère commence en Polynésie. Ainsi, à partir de 2007, Gaston Flos est-il embarqué dans une spirale judiciaire. Il est concerné par 6 affaires qui, mises bout à bout, donnent un aperçu de la complexité du système Flos et de ses excès. L'affaire des emplois fictifs et de l'OTP notamment décrivent un système de chantage, de dons et contre-dons et d'accointances avec les entrepreneurs de l'archipel. Parmi eux, un certain Robert Wan, homme d'affaires chinois spécialisé dans la perle. Un personnage qui fait le pont entre 3 affaires en métropole et en Polynésie. Le juge Redonné, qui enquête notamment sur l'affaire JPK, demande à ses collègues Jean-Marie Duy et Henri Ponce, qui travaillent eux sur l'affaire Clearstream, d'avoir accès à certaines pièces du dossier. Celles qui concernent un éventuel compte japonais appartenant à Jacques Chirac. Depuis plusieurs années déjà, cette affaire poursuit l'ancien président. Il existerait un compte à son nom au Japon qui lui aurait servi à financer le RPR. Le juge Redonné s'appuie depuis plusieurs mois sur la note rédigée par JPK qui recense les différentes affaires auxquelles serait mêlé Gaston Flos. Et parmi elles, les liens troubles entre Robert Wan, Jacques Chirac et l'ancien président polynésien sur fond de compte japonais. Interrogé par le journaliste Benoît Colomba dans le cadre d'un reportage pour l'émission Interception de France Inter, Gaston Flos nie tout en bloc.
Vous me faites rire, vous me voyez avoir assassiné ou commandité l'assassinat de Jean-Pascal Courault. Tout cela, ce sont des armes de nos adversaires, comme les détournements de fonds publics, etc. Mais il n'y a pas de preuves. S'il y avait vraiment des dossiers compromettants contre Gaston Flos, mais à longtemps qu'ils auraient étalé sur la place publique, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils ont menti jusqu'à présent. Et encore une fois, je vous le dis, après fameux compte que j'aurais eu au Japon, ce qui est absolument faux. Je n'ai aucun centime, aucun yen au Japon ni ailleurs.
Fin 2009, l'immunité parlementaire de Gaston Flos est levée. Dans l'affaire de l'OPT, il est accusé d'avoir touché tous les mois pendant une douzaine d'années des mensualités d'environ 8000 francs de la part d'Hubert Haddad, qui lui bénéficiait des contrats publicitaires publics des plus avantageux. L'ex-président reconnaît avoir utilisé de l'argent public pour son compte personnel, notamment pour payer ses pensions alimentaires. Il est mis en examen et il est placé en détention dans la prison de Nuutania, à Tahiti. Le jour de son emprisonnement, une dizaine de militants de son parti, vêtus de blanc, la couleur du deuil, l'accompagnent au rythme des chants de soutien et des cris contre la France. Après la condamnation de Charles Pasqua dans l'affaire de l'Angola Gate, le renvoi en correctionnel de Jacques Chirac pour les emplois fictifs et le procès de Villepin sur le dossier Clearstream, on en est au quatrième acte judiciaire visant une figure importante du RPR. De là à avoir un règlement de compte du pouvoir Sarkozy en place contre la Chiraquie, il n'y a qu'un pas. En février 2010, Gaston Flosse est cité dans 11 affaires judiciaires, triste record. À chaque fois ou presque, il est condamné à de la prison avec sursis, de fortes amendes et des années d'inéligibilité. Et à chaque fois ou presque, il fait appel, se pourvoit en cassation et voit ses peines réduites. Jusqu'à ce mois de mai 2013, où il parvient à retrouver la présidence de la Polynésie. Bon, pour peu de temps, car un an plus tard, le 23 septembre 2014, il est rattrapé par le dossier des emplois fictifs. La Cour de cassation valide donc définitivement la condamnation de 3 ans d'inéligibilité. Gaston Flosse doit quitter le pouvoir. Et sans complexe, il demande la grâce présidentielle à François Hollande.
Moi je dis que l'idéal, ça aurait été qu'il y ait une dissolution, que l'on rende la parole au peuple. Mais je pense qu'il y a une question qu'il faudrait se poser. Si M. Chirac était toujours président de la République, qu'est-ce qui se serait passé? Tout ça aurait encore été étouffé. Ça fait 2004-2014, enfin, hein, c'est une affaire qui est arrivée au bout, mais qui a déjà démarré bien avant ça, et c'est pas la seule affaire. Plusieurs affaires, il y a encore d'autres affaires qui vont suivre. Hein. Voilà comment la France, l'image de la France que nous avons connue depuis toujours. Hein. Là, c'est une décision juste, impartiale. C'est cette France-là que nous aimons.
Et voilà ce qu'en dit Oscar Temaro. Fin de partie pour l'uburois polynésien qui doit renoncer à tous ses mandats locaux. Prévenant et prévoyant, il avait envisagé cette possibilité. C'est donc son ex-gendre, Édouard Fritsch, qui lui succède à la présidence de la Polynésie. C'est la République qui flirte avec la monarchie de droit divin. Aujourd'hui, Gaston Flosse est toujours concerné par des jugements et des procès en cours. L'affaire JPK, elle, est au point mort. Elle plane toujours au-dessus de l'archipel, sans qu'on ait pu prouver un quelconque rôle direct du président dans cette tragique disparition. Pendant 40 ans, sur ce bout de territoire, les valeurs de la République et de la démocratie ont été bouleversées, maltraitées, bafouées à l'ombre d'une incroyable impunité. Ce que révèle cette histoire, c'est que derrière la politique et les institutions, il y a des hommes de pouvoir, illustrant une fois de plus la théorie de Machiavel, la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur des hommes.
We'll be right back. j'irai bien danser coupé décalé. Tu es belle et bien, et tu le sais très bien. Prenons-nous les mains et donnons-nous la vie.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le cas Gaston Flosse avec notre invité Renaud Lecadre. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Libération et que Libé est notre partenaire une fois tous les 15 jours. Alors, commençons par le contexte, car il est essentiel. Le contexte, c'est la particularité de ces territoires d'outre-mer, cette relation qui unit la métropole à ces territoires, relation d'histoire, mais aussi d'intérêt. Est-ce que ces relations, parfois troubles, entre la métropole et les territoires ultramarins, est plus forte en Polynésie qu'elle ne l'est aux Antilles, par exemple? Et si oui, pourquoi?
Alors c'est vrai que la métropole a tendance à davantage se désintéresser de la Polynésie qu'elle ne s'intéresse aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. D'une part parce qu'il y a davantage de députés et sénateurs en Guadeloupe et Martinique qu'il y en a à Papeete. Par ailleurs, il y a aussi l'éloignement géographique. Le statut qui est différent, un statut bien plus autonome à Papeete qu'en Guadeloupe ou Martinique. Et aussi, surtout le fait, le principal apport de la Polynésie à la République française, c'est son espace maritime, qui fait de la France la troisième puissance maritime mondiale. Tout cela fait, lié au statut d'autonomie, qu'il y a moins d'ingérence de la métropole dans le fonctionnement local.
Et ça veut dire que Gaston Flosse a aussi bénéficié de cette liberté-là, finalement. Que ces méthodes eût été plus compliquées, ailleurs qu'ici, en gros.
Il a bénéficié de ce cadre institutionnel en général, mais aussi d'une proximité affective avec Jacques Chirac.
Bien sûr, et on l'a dit, on a insisté là-dessus dans le récit. Le rôle du nucléaire aussi, c'est quand même, je disais, le terrain de jeu, de façon ironique, bien sûr, mais c'est là où ont eu lieu les essais nucléaires, et ça crée un lien qui est un lien à la fois politique, de défense, et puis aussi un lien financier. Donc cette dimension-là, elle l'a aussi permis à Gaston Flosse de creuser son sillon.
Localement, le nucléaire, c'est certes un fléau, avec les dégâts environnementaux, mais c'est aussi une manne financière. À la fois, à l'époque où il y avait encore les essais, avec beaucoup de fonctionnaires qui irriguaient l'économie locale, et tout aussi bien depuis l'arrêt des essais, quand, sous couvert de compensation environnementale ou sociale, la manne de la métropole continue à alimenter l'archipel.
Alors, les craintes indépendantistes également, car non loin de là, mais tout est relatif dans cet immense océan qui ne porte pas son nom Pacifique pour rien, il y a de graves problèmes en Nouvelle-Calédonie qui vont arriver jusqu'à l'épilogue dramatique de 88 et au règlement d'ailleurs du problème la même année. Oui. Ça aussi, c'est un facteur important. Est-ce qu'il y a des craintes indépendantistes de la métropole par rapport à la Polynésie en fonction de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie?
Relativement moins qu'en Nouvelle-Calédonie, qui a des matières premières, du nickel et des relations de proximité avec l'Australie, qui les permettent d'être pas totalement dépendants de la métropole. En revanche, s'agissant de Papeete, isolée au milieu d'un océan, au milieu, ses voisins sont d'autres petits archipels tout aussi pauvres et démunis, sans matières premières, sans rien du tout, si ce n'est la périculture et autres petites activités piscicoles. On ne sent pas venir... Alors certes, il y a un mouvement indépendantiste, mais dans la mesure où les pro-français ont eux-mêmes revêtu la casquette autonomiste, bénéficiant à la fois des subsides de la métropole et d'un relatif statut d'autonomie, je pense qu'ils arrivent à avoir le beurre et l'argent du beurre.
Bon, alors, on va venir maintenant à la personnalité de Gaston Flosse, que ce soit en privé ou en public. Bah, c'est une personnalité hors norme, on va dire. Il a près de 11 enfants avec des femmes différentes. Bon, dans sa regard, mais il y a de nombreuses pensions alimentaires, peut-être de nombreux besoins. Et puis, il y a un charisme, hein. Voilà. Ces gens, il y a des gens qui ont un charisme et ils le mettent pas forcément là où il faudrait le mettre. Mais ils ont un charisme. Et il a du charisme, Gaston Flosse.
Il a certains charismes, mais il pratique surtout un clientélisme le plus exacerbé, le plus éhonté qui soit.
Oui, mais Mais alors, d'accord, on va y revenir, bien sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas un minimum de charisme, de présence, de faculté à pouvoir faire croire aux gens ce qu'on dit? Il y a ce minimum-là. Est-ce qu'il a ça? Il a.
D'accord. Cet homme a beaucoup de talent, c'est évident.
Ouais.
Il sait parler à ses concitoyens locaux. Il sait maîtriser le rapport compliqué entre les gens du coin et la métropole. Ce garçon a énormément de talent.
Alors le clientélisme, c'est un rapport de force. Hein. C'est souvent du chantage d'ailleurs, sans que ça soit présenté officiellement comme ça, bien sûr. Mais il y a de ça dans le clientélisme. Et vous parliez donc du clientélisme de Gaston Floss. Expliquez-nous cela.
Alors, le clientélisme, c'est d'abord s'acheter des obligés, rendre service. Ouais. Alors, Gaston Floss a un côté un peu pater familias. J'aime mes gens, j'aime mes concitoyens, je leur veux du bien.
Ouais.
Je pense qu'il croit sincèrement à ce discours. Mais les méthodes ne sont pas celles d'un bon père de famille, ce sont celles d'un quasi-homme d'État qui distribue les subsides en sachant très bien ce qu'il peut avoir en retour en matière électorale. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire des emplois fictifs.
Oui.
À la base, ça concerne 1000 personnes. À l'échelle de Papette, c'est énorme. Vous savez qu'il y a le maire de Paris. Là aussi, vous avez fait un parallèle assez heureux sur les emplois fictifs visant Jacques Chirac. Ça n'a jamais concerné que quelques centaines de personnes à la mairie de Paris. Là-bas, on démarre de 1000. À l'échelle de l'archipel, c'est énorme. Plein de gens, plein de familles. Parce que un membre d'une famille qui doit sa subsistance grâce à un emploi ou un petit boulot fourni par le père Gaston Floss, c'est toute une famille qui lui sait gré et qui ensuite va voter pour lui.
Et donc ça, c'est l'explication de sa longévité au pouvoir, malgré ses méthodes et malgré le fait qu'on les connaisse, ces méthodes. C'est ça, donc. Oui. Le clientélisme, c'est concernant Gaston Floss et beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein, finalement.
C'est une méthode connue et avérée,
bien sûr,
qui a finalement été sanctionnée pénalement bien à retardement en 2014, mais qui lui a permis de prospérer pendant 30 ans.
Alors il y a aussi les signes extérieurs de richesse qui mettent la puce à l'oreille. Le palais présidentiel, cette incroyable histoire de la construction d'un majestueux bungalow sur un atoll pour la visite de Jacques Chirac en 2003, endroit où Chirac ne se rendra même pas d'ailleurs.
Absolument.
Donc quel est ce côté mégalo? C'est pour affirmer un pouvoir, c'est quoi?
C'est une des premières fois où il reçoit Jacques Chirac dans l'atoll. Il a fait une fête monstrueuse, en lui démontrant tout son savoir-faire, en termes de mobilisation de la population, enthousiasme, comme qu'il s'y est à une visite présidentielle, des danseuses, des tutus, des ou-ou, des cris de joie dans tous les sens. Donc cet homme sait recevoir.
Oui.
Jusqu'à l'absurde, précisément comme en lui réservant un gîte dont le Jacques Chirac n'avait que faire et qu'il n'utilisera même pas.
On pense aussi à cette affaire dite des sushis lors du soir de sa défaite en 2004. Il est tellement sûr de gagner d'ailleurs qu'il commande une réception. Alors vous me dites si les chiffres sont exacts, oui. À 24 000 euros, oui, sur des fonds publics.
Alors, cette affaire est passionnante.
Allez-y.
C'est passionnant. Si vous permettez une parenthèse pas trop longue. Alors, l'affaire des sushis, c'est une caricature de l'impunité dont a longtemps bénéficié Gaston Floss grâce à la bienveillance du parquet de Papette, avant changement d'époque, dès l'élection de Nicolas Sarkozy. On reprend le film. On est en 2004, élection territoriale. Gaston Floss, président sortant, est tellement sûr de gagner qu'il convoque une réception, à base de sushis donc, facturé 22 000 euros à un traiteur. Manque de chance, il n'égale pas l'élection. Oscar Temaru, une fois élu, refuse de payer l'ardoise et porte plainte pour détournement de fonds publics. Le procureur de la République, Jean Bianconi, pour ne pas le nommer, l'homme qui a tout fait durant son mandat pour étouffer toutes les affaires visant Gaston Floss, requiert un non-lieu. Malgré tout, un procès a lieu. Il requiert une relaxe.
Ouais.
Arrive enfin le procès en appel. Nous sommes en 2009. Le nouveau procureur, José Torrel, lui, nommé par Sarkozy. Cette fois, lui, requiert condamnation. Alors, selon les époques, le parquet dit blanc, le parquet dit noir. José Torrel, requérant sa condamnation, dira ceci. Je ne mixe pas ce non-lieu initial. Avant, finalement, de suggérer une explication, dira-t-il, les temps ont changé. Voilà. Tout le système Floss est résumé dans cette affaire des sushis. Impunité dans le premier temps, condamnation dans un second.
Alors, les liens avec Jacques Chirac, maintenant. Écoutez, on va écouter une archive. C'est Benoît Colomban, journaliste de France Inter, qui, sur l'antenne de France Inter, fait le lien entre les différentes affaires, notamment celle du compte japonais de Jacques Chirac. On écoute Benoît Colomban, on en parle ensuite.
Ce courrier date du 28 août dernier. Il émane de la famille de Jean-Pascal Courault, un journaliste surnommé JPK, disparu dans des conditions troubles en décembre 97 en Polynésie française. Sa famille dépose plainte pour assassinat. Ce journaliste réputé incontrôlable enquêtait notamment sur les finances de Gaston Flosse, longtemps président de la Polynésie française, très proche de Jacques Chirac. Or, selon Philippe Courault, le frère de JPK, joint en Polynésie, le journaliste disposait d'un document faisant allusion à un compte japonais au nom de Jacques Chirac.
Jean-Pascal avait des informations dès 1997 sur des transferts financiers qui auraient été effectués d'une entreprise de Polynésie française ayant pignon sur rue vers un compte japonais ouvert au nom de Jacques Chirac au Japon. Ces informations faisaient l'objet d'une note. Jean-Pascal avait cette note. Ces virements avaient été constatés dans la comptabilité de cette entreprise.
Le 19 juin dernier, un avocat proche du journaliste a confirmé sur procès-verbal l'existence de cette note faisant référence au compte japonais, un compte formellement démenti par Jacques Chirac. Persuadé qu'il s'agit là d'un mobile possible pouvant justifier la disparition de JPK, la famille du journaliste souhaite à présent accéder aux pièces du dossier Clearstream en rapport avec ce compte présumé, sans succès pour l'instant.
Alors, compte présumé au Japon, Clearstream, le journaliste de JPK, oulala, tout cela est lié, intimement lié, compliqué, qu'est-ce que c'est ?
Ah, tout cela est passionnant, on peut tout remuer dans tous les sens, avec très peu de certitude à ce stade.
Ouais.
Alors, commençons par le début.
Mm-hmm.
Jacques Chirac a-t-il un compte au Japon ? Personne n'en a strictement la preuve aujourd'hui, dans la mesure où la banque, la Tokyo Sowa Bank, qui était l'heureuse étape de ce compte, a fait faillite en 2001.
Ouais.
Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'elle fait faillite en 2001, Jacques Chirac n'avait pas de compte. Ce qui n'exclut pas qu'il en eut avant.
Mm-hmm.
Sous le fond, avoir un compte au Japon, ça n'a rien de suspicieux. Hein. Le Japon n'est pas un pays offshore, il contribue avec les justices internationales. Ce qui semble vrai, quoi que Jacques Chirac en dise, c'est qu'en tant qu'amateur du Japon, il aurait fait une 5 ans d'aller-retour entre la France et le Japon depuis 30 ans. Mmh. C'est un vrai hippophile.
Ce qui est vrai, il est fan de sumo.
Ce qui sont avérés, c'est que en tant que membre d'un jury d'une fondation artistique au Japon, il avait un budget annuel d'à peu près $100,000 pour ses déplacements fréquents au Japon.
Mmh.
À ce stade, rien de suspect, rien de délictuel. C'est cependant dans un second temps que des soupçons sont nés sur le fait que ce compte a été alimenté par d'autres flux.
Oui.
Alors, le premier soupçon, alors, on ne parle que de soupçons à ce jour. Hein.
Bien sûr.
Je vous rappelle que l'existence même du compte n'est pas avérée à ce jour.
Mm-hmm.
Sur le flux, en dehors de ce flux naturel et tout ce qui est plus légal via cette fondation japonaise, apparaît à partir de 97 le soupçon, alors là on revient à Gaston Flosse, à la Polynésie, et l'affaire du Tara. Le Tara est un hôtel géré par le fils de Gaston Flosse, Réginald, qui fera faillite plus tard, mais en 95, en mars 95, nous sommes en pleine campagne présidentielle, en mars 95, le gouvernement polynésien accorde une subvention à cet hôtel. Déjà, d'un strict point de vue pénal, c'est assez douteux. Et de fait, les Flosse père et fils seront condamnés plus tard, à une peine minimale. Le soupçon, c'est qu'une partie de ces fonds aurait été envoyée au patron de la banque, Tokyo Sowa Bank. Monsieur Oshada, un intime de Jacques Chirac, auquel il avait remis la Légion d'honneur. Ce ne sont que des soupçons. Hein.
Mm-hmm.
Mais le soupçon n'est que ces soupçons-là n'ont même pas été étudiés, ne serait-ce que pour vérification, par la justice.
Et pourquoi, selon vous ?
Parce que Gaston Flosse bénéficiait d'une impunité totale par le premier représentant de l'État sur place, le procureur de la République.
Bon, alors, que vient faire l'affaire Clearstream là-dedans ?
Alors, arrive, là nous, on se situe dans la dernière ligne droite de la cohabitation Chirac-Jospin.
Oui.
Alors, Chirac accuse Jospin d'avoir diligenté la DGSE pour le chercher des noises, notamment dans cette affaire de compte japonais.
C'est bon.
Sauf à l'origine, quand la DGSE s'intéresse à ce compte, c'est pas entre 2000 et 2002, c'est en 1996, à l'initiative du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, qui, s'inquiétant par avance et voulant faire barrage de son corps à certaines relations un peu douteuses de Jacques Chirac, c'est lui qui, de manière préventive, mis sur la DGSE pour savoir si oui ou non Chirac a un compte à la DGSE. Et des années plus tard, c'est le même Chirac, apprenant que la DGSE va enquêter, instrumentalisera cette enquête pour dézinguer Jospin à l'approche de la présidentielle. Bref, Clearstream. Vous voulez qu'on rajoute une couche de Clearstream?
Ah bah oui, que fait Clearstream là-dedans, bien sûr.
Sur ces entrefaites, le général Rondeau entre dans la danse. Ah. Le graphomane de l'affaire Clearstream. L'homme qui note tout sur ses petits calmins, ses petites fiches, etc. En 2000, il est missionné par l'Élysée pour savoir si la DGSE s'est bien ou mal comportée dans cette histoire. Voilà. Son jugement sera à mi-chèvre, mi-chou, en disant, oui, peut-être, voilà. Il dira dans un premier temps que le compte japonais est avéré, oui. Avant de se rétracter. Parce que précisément, pas plus que lui que personne, que quiconque autre n'a la preuve de l'existence de ce compte japonais. On est chez les fous, hein. Et dans l'affaire de, arrive à l'affaire Clearstream, c'est vrai que le général Rondeau, certains des noms, contenu un petit carnet du général Rondeau, se retrouveront dans les listings Clearstream.
Oui.
Via l'immeuble de la houle, le faussaire de l'affaire, etc. C'est sur ces entrefaites que le général Rondeau est entendu dans l'affaire Clearstream. Même si, à titre personnel, personne ne lui reproche rien. L'affaire Clearstream, je vous rappelle, c'est une affaire de dénonciation calomnieuse.
Oui.
Le général Rondeau n'a rien dénoncé. Il a juste consigné dans ses petits carnets des ragots divers et variés. Sauf que l'immeuble de la houle va les mettre dans les full listings. Voilà. Donc c'est sur ces entrefaites que les juges en charge de l'affaire Clearstream perquisitionne chez Rondeau, découvre tous ses carnets. Ah, il est question du compte japonais, de l'enquête de la DGSE. Du coup, tout le monde finit par s'y intéresser, y compris les juges haïtiens enquêtant sur le décès de JPK intervenu en 1997.
Bon.
Eux aussi cherchent une piste, une explication pour laquelle JPK aurait été assassiné en 1997. Arrive une autre hypothèse possible, c'est que l'avocat de JPK, 3 mois après son décès, déposera une procédure, car lui aussi a un soupçon sur l'alimentation d'un compte nippon de Chirac, non plus sur l'histoire de l'hôtel entre Flos père et fils, mais sur l'histoire de l'atoll de M. Wan dont vous avez parlé tout à l'heure.
Bon, alors, écoutez, si un écrivain de polar ou un cinéaste voulait trouver une affaire hyper compliquée, ou en faire une série télé pour tenir les gens en haleine, il ferait pas mieux. Hein.
Non.
Il ferait pas mieux, parce que ça vient de partout.
Oui, voilà.
Bon, écoutez,
et le pire, c'est pas très satisfaisant pour les magistrats ou les journalistes, parce qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Prenez l'affaire JPK. On pense enfin qu'on va avoir un procès à partir de 2016.
Ah oui, parce qu'il y a quand même des éléments énormes.
Mais seuls seront poursuivis deux, trois gros bras de Gaston Flos, les membres du GIP ou de sa flottille, mais qui seront poursuivis uniquement pour séquestration. Parce qu'on a la preuve, pas la preuve matérielle du décès.
Ouais.
En dépit de l'aveu d'un des membres, vous avez cité l'extrait de sa déposition, et Benoît Combat, là, on a fait une reproduction audio. Faut savoir, pour revenir un petit peu sur comment le parquet de Papette a longtemps protégé Gaston Flos, Guillou, le premier qui dénonce l'assassinat, il sera poursuivi par dénonciation calomnieuse par ce saint infâme procureur Jean-Pion Bonconi, l'homme qui a tout fait pour protéger Gaston Flos pendant des années, avant d'être enfin muté.
Bon, alors dites-moi, tout ça s'arrête, on n'a plus que 30 secondes, mais tout ça s'arrête quand même quand Nicolas Sarkozy arrive. Là, c'est le vrai tournant.
Absolument. C'est pas l'élection de François Hollande en 2012 qui a changé la donne, c'est le Sarko en 2007. Et Gaston Flos lui-même ne s'y est pas trompé, il a déclaré un jour publiquement « Le nouveau procureur a été nommé là pour me chercher des poux ».
Le nouveau procureur, il voulait parler du nouveau président.
Non, procureur.
Mais il aurait pu, comme ça, par une image, dire...
Absolument.
On a un président qui sera procureur contre Moore. D'accord, c'est bel et bien donc le tournant. Écoutez, merci beaucoup Renaud Lecadre pour toutes ces précisions. Merci pour vos efforts, parce que c'est compliqué d'arriver à résumer une affaire comme celle-là avec toutes ces branches. Merci beaucoup. Au revoir.